du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Notre invité a grandi dans l'univers de la télévision et plus particulièrement dans celui de l'information. Il a amorcé sa carrière très modestement et a gravi tous les échelons pour parvenir à la fonction qu'il occupe maintenant, soit celle de réalisateur multiforme pour le service de l'information de la Société Radio-Canada. En termes simples, il accompagne le travail des journalistes sur le terrain dans la production de leurs reportages. Avec nous, avec grand plaisir, François Mouton, bonjour à vous.
Bonjour, Armand.
On doit dire qu'on se connaît depuis quand même quelques années.
25 ans minimum.
On a eu même le plaisir de travailler ensemble et même de faire des reportages. On se souvient du fameux tremblement de terre de San Francisco. On va tout de suite éliminer
Où nous avions rencontré Dan Rather.
Tout à fait.
Avec le grand Roland Martin.
Oui, bien sûr. Mais en fait, ils étaient tous là, les chefs d'antenne. Peter Jennings, Tom Brokaw. C'était vraiment une épopée parce que le micro-ondes, pour les gens qui connaissent un peu comment fonctionne la télévision, ce sont ces gros camions qui permettaient de transmettre. À l'époque, on était sur des camions satellites. Il fallait, c'était votre travail d'ailleurs, de réserver du temps, de l'espace sur les satellites pour qu'on puisse acheminer nos reportages.
En fait, ce qui était complexe de cette époque-là, c'est qu'aujourd'hui, tout se fait avec des téléphones cellulaires pratiquement maintenant. À l'époque, c'était une grosse quincaillerie qu'il fallait absolument réserver parce que les faisceaux hertziens étaient saturés, surtout une expérience comme celle-là où il y avait combien de morts qu'il y avait dans cet endroit-là, c'est incroyable.
Oui, c'est au moment où l'autoroute à Exactement. Oakland s'était écrasée. Exactement. On est en octobre 1989.
Oui, à peu près.
Et on a l'impression que le téléphone cellulaire a toujours existé. En 89, il y en avait, mais c'était des espèces de grosses boîtes, n'est-ce pas?
L'époque où il fallait trouver des batteries un peu partout, la moindre prise de courant, c'était notre bouée de sauvetage. Non, c'est des souvenirs incroyables. Et de toute façon, ce qui est intéressant du milieu et du monde dans lequel on a vécu, parce qu'on l'a vécu ensemble, lui, toi aussi, tu as continué. Oui. Ce qui est intéressant de ce milieu-là, c'est de voir l'évolution qui s'est faite au fil du temps. On est passé d'une époque... Moi, je me souviens des premiers temps que j'allais avec papa à l'époque à Télémétropole.
Qu'il faut le dire, on ouvre une parenthèse.
Oui, on va l'ouvrir tout de suite.
Vous êtes le fils de Roger Gosselin.
Exactement.
Qu'on a bien connu, qui a connu ses belles heures de gloire au fameux Canal 10.
Ben oui, papa était là à l'ouverture en 61. Le gala d'ouverture qui était fait avec Pierre Lalonde et Joël Denis, ben, il y avait un troisième animateur qui était là, et c'est papa. Et puis, moi, comme petit garçon, je me rappelle, quoi, j'avais 5-6 ans, déjà, j'allais découper les dépêches sur les téléscripteurs les fins de semaine pour être capable de passer du temps avec papa, parce que forcément, il travaillait, il faisait le bulletin de 18h et le bulletin de 22h, 6 jours semaine. Donc, le temps en famille...
Et le bulletin, à l'époque, était à 22h30. Il ne durait que 15 minutes, si ma mémoire est bonne.
Celui de fin de soirée, oui. Puis oui. Je pense que si je me souviens bien, c'est que les films, souvent, parce que comme le bulletin de fin de soirée était un bulletin national,
oui.
C'était pas nécessairement évident qu'il était pour avoir les films.
Exact.
C'est pour ça qu'il y avait une émission qui s'appelait « La fin de la semaine ». C'est arrivé cette semaine.
Voilà.
C'était tous les bouts de films qui n'avaient pas passé.
Et les nouvelles s'appelaient « Le 10 vous informe ».
Exactement.
Animé par Roger Gosselin.
Exactement.
On vient d'ouvrir une grande parenthèse.
Oui.
Mais tout cela vous a permis peut-être un jour de vous retrouver dans le métier que vous exercez aujourd'hui.
Ben c'est ça. Écoute, on peut pas passer notre vie à voir... tu vois ton père qui passe son temps à écumer les journaux, à écouter, faire des entrevues. On entendait parler de plein de gens à la maison parce que papa les fréquentait. Fait que c'était un autre environnement. Quand on parlait de M. Bourassa, papa parlait souvent de Robert. Il y a toute l'époque des syndicalistes à cette époque-là. Louis Laberge, on allait au resto et Louis Laberge souvent venait saluer papa. Et c'est tous des gens que je connaissais, qu'on vivait, qu'on fréquentait.
Et il faut dire que Roger Gosselin avait aussi une notoriété d'homme sérieux, malgré le fait qu'il a animé aussi parfois en remplacement avec Joël Denis quand Pierre Lalonde n'y était pas. Il se retrouvait à Jeunesse d'aujourd'hui.
Oui,
puis... Il faisait le cinéma craft. Bon, multitâche.
Multitâche au maximum. Parce que de toute façon, souvent, il lui disait que c'est Bernard de Rome qui a vraiment transformé le rôle de chef d'antenne. C'est le premier qui a eu droit à l'exclusivité. Mais à l'époque, papa a animé pendant longtemps des soirées à Casaloma. Il faisait des numéros de stand-up avec Gilles Latulippe.
Incroyable. François, vous allez nous retremper un peu aussi à travers votre musique dans une autre époque. Une chanson qui a probablement marqué l'histoire de la chanson québécoise. La première que vous nous proposez.
Ben, de toute façon, moi, je pense que c'est une des pièces que j'aime le plus. C'est une des pièces que tu te laisses aller et tu te laisses t'envoler.
Alors, Lindbergh, Robert Charlebois, Louise Forestier.
Whisper, jet, clipper, jet, turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, London, Eastern, Western, puis Pan American. Je sais plus où je suis rendu. J'ai été au sud du sud, au soleil, le blanc rouge, les palmiers et les cocotiers glacés dans les peaux aux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours la Sophie venait de partir, sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Il y avait même une compagnie qui engageait des pigeons qui volaient en dedans et qui faisaient du ballon pour l'avenir dans le vent. C'est absolument, absolument, absolument très salissant. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus. Ma Sophie à moi, a pris une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie. C'est plus parti. Et moi, je suis rendu à dos du chameau. Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais j'ai plus, je ne sais plus où je suis, où je suis rendu. Puis j'ai fait une chute, une crise de chute en parachute, et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami, et surtout mon pot de biscuit. Allez là, que j'avais ramassé sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American.
C'est une pièce incontournable de la chanson québécoise. Robert Charlebois a vraiment marqué une espèce de cran d'arrêt. On passe maintenant à autre chose avec ce type de chanson, qui a fait scandale à l'époque.
Je comprends, quand on écoute les paroles. Wow.
Revenons à votre métier, François Mouton. Mm-hmm. Vous êtes, dit-on, un réalisateur multiforme. Ça veut dire quoi précisément?
Ça, tout de suite, je vous avertis, c'est pas parce que j'ai quatre bras ou quatre pieds. C'est pas ça un multiforme. Multiforme, en fait, ce que c'est que maintenant, au début, on travaillait souvent à faire de la télé ou faire de la radio ou faire maintenant ce qui est du web. La différence, c'est que les grosses corporations, autant que TVA que Radio-Canada, maintenant, on doit produire la déclinaison de nos contenus. Ce que vous consommez à la maison, que vous l'ayez sur une tablette, sur un téléphone, ou que vous l'ayez pris à partir de la télévision, ben, à la base, il y a eu une cueillette qui a été faite. Et c'est cette cueillette-là, c'est là où je travaille beaucoup.
Et où elle se retrouve donc partout, c'est-à-dire sur l'écran de télévision, mm-hmm. sur la tablette, sur les Twitter de ce monde, non?
Ben, Twitter, c'est pas vraiment, écoute, c'est plus un système pour le journaliste. Je suis beaucoup plus porté à dire que les gens qui vont aller sur radiocanada.ca oui. ou sur la presse, whatever, oui. quand ils consultent un article, il y a quelqu'un qui l'a écrit, il y a quelqu'un qui l'a fait. Mais dans l'organisation du travail, la différence, c'est qu'il faut être capable de produire tout ça en même temps avec la course qui se fait, parce que Twitter nécessairement va vite pour sortir quelque chose. Mais si on veut aller en profondeur, si on veut comprendre, s'il y a une analyse qui a été faite, puis surtout s'il y a un regard journalistique qui a été fait sur le produit, bien, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Fait qu'il y a une forme de déclinaison qui se fait, qui est naturelle et automatique.
Donc, comme je le disais, vous accompagnez les journalistes au plan de la scénarisation de leur reportage.
En fait, ça va plus loin que ça. Avant de partir, on se demande qu'est-ce qu'on va faire. La question est, on sait déjà au départ, si on s'en va couvrir une conférence de presse, qu'ils vont nous annoncer quelque chose. À partir de ce moment-là, OK, parfait. Maintenant, comment on va décliner tout ça avant? Fait qu'en commençant, en sachant où on va, c'est beaucoup plus facile de le faire en arrivant. Parce que c'est toujours simple. Décliner, c'est trois fois plus de temps. Mais si on l'a prévu, on gagne trois fois plus
Une
de temps.
Une bonne préparation permet toujours de faciliter le travail.
C'est le fond de l'histoire.
Leonard Cohen, pourquoi ouais. donc?
Leonard Cohen, surtout Song for the Road, tout cet album-là, la première fois que je l'ai écouté, c'était avec mon père. C'est la dernière fois qu'on faisait un tour de voiture ensemble, puis on chantait du Leonard Cohen à tue-tête.
Et là, vous nous proposez?
Je vais écouter The Patrician, c'est une des plus belles.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind. Is blowing through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai changé 100 fois de nom. dans un grenier, pour la nuit nous a caché, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
The wind is blowing through the graves. The wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
On vient d'entendre la nuit. Queen, proposé par François Mouton, qui est notre invité aujourd'hui. François, qui est réalisateur en information à la Société Radio-Canada, et pour réaliser des reportages, donc sur plusieurs formes, que ce soit sur radiocanada.ca ou pendant le téléjournal, vous disiez qu'il fallait d'abord bien se préparer, donc savoir également quel est l'objectif du journaliste avec qui vous allez partir, parce que vous avez parcouru le monde, d'une certaine façon.
J'ai eu la chance de couvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements, effectivement.
Est-ce qu'il y a un événement particulièrement qui vous a marqué?
Les plus impressionnants, j'ai fait les Oscars il y a quelques années. C'est impressionnant. Mais ce qui est vraiment là, le nec plus ultra, là, c'est l'inauguration d'un président américain. J'ai eu la chance de faire George Bush et Barack Obama. Et c'est la ville est absolument... C'est incroyable. Il y a 1 million de personnes là, qui sont là, qui l'acclament. Les services de sécurité sont complètement en folie. C'est probablement, je pense, ce qui est le plus gros, peut-être olympique, là, mais c'est probablement ce qui est le plus gros à couvrir. Il y a une effervescence incroyable. C'est un changement de gouvernement. La capitale est sans dessus-dessous. Et puis, de vivre ça. Il y a une passion qui se vit, c'est incroyable.
Est-ce qu'on sent la pression quand on réalise du reportage dans un événement semblable?
Complètement, parce qu'il n'y a pas de marge d'erreur. Il n'y a aucune espèce de marge d'erreur. Si ce qui a été prévu a été mal prévu, c'est just too bad. Avec les services de sécurité américains, écoute, je me rappelle, c'est George Bush, le deuxième mandat. L'ambassadeur canadien avait décidé, lui, qu'il ne voulait plus de médias sur le toit de l'ambassade canadienne. La plupart des médias canadiens étaient là.
Et puis, pour des raisons de sécurité.
Oui, disons. Mais c'était pas tout à fait ça. Bref, il a fallu dealer avec eux autres parce que là, on n'avait plus de plan B. Là. Il n'y en a pas de plan B dans ces affaires-là. Tout doit être prévu, approuvé par la sécurité, par les services secrets américains. Fait qu'essayer d'imaginer comment on délie ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment de la pression.
Ça, c'est un événement. Donc, vous étiez là pour l'investiture de...
J'ai fait les deux investitures de M. Bush. La première de Barack Obama.
Alors, on va rester aux États-Unis. On va se rendre, grâce à vous, à Folsom, qui est une municipalité de la Californie, qui est surtout connue pour sa célèbre prison. Ouais. Elle a été ouverte, d'ailleurs, en 1880. Elle est la seconde plus vieille prison de l'État de Californie, après celle de San Quentin. 92 prisonniers condamnés à mort y ont été pendus sur une période de 42 ans. Vous saviez ça?
Moi, je connais surtout la chanson.
La chanson, c'est laquelle?
C'est Folsom Prison Blues. Moi, j'ai découvert ça avec mon ex-conjointe et puis franchement, ça, c'est un souvenir qui est...
Et c'est Johnny Cash.
Et mon oncle Johnny.
I hear the train a-coming. It's rolling around a bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison. And time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a-moving, and
that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Bien entendre Johnny Cash proposé par François Mouton. Une petite note, François, additionnelle sur Folsom. C'est intéressant. Cette ville-là a commencé, d'abord, elle s'appelait la ville de du granit. Elle était surtout habitée par des mineurs qui cherchaient l'or. Hein? C'était la grande période de la ruée vers l'or dans les collines de la Sierra Nevada. Cette ville a prospéré grâce à l'acharnement de Joseph Folsom, qui y fit construire une voie ferrée. Et Folsom est mort en 1855, et c'est pour cela que la ville a pris son nom, en hommage à Folsom. Quant à la prison, elle est apparue dans plusieurs films, mais elle est surtout devenue célèbre par la chanson de Johnny Cash qu'on vient d'entendre, qu'il a enregistrée même à la prison en 1968. Et on peut dire aussi que Folsom, actuellement, est une ville habitée par la frange supérieure de la classe moyenne, malgré le fait qu'il y ait une prison. Il y a de nombreux parcs, de bonnes écoles, une partie historique, et on dit qu'elle héberge aussi le plus grand employeur privé de la région de Sacramento. En fait, c'est la firme Intel. Alors, on est dans le domaine de l'informatique, vous connaissez ça, François. Elle compte plus de 70 000 habitants. Vous êtes déjà allé?
J'espère juste que l'eau est meilleure que ce qu'on a vu dans le film.
Oui. Mais quand on voyage, il faut s'adapter, vous parlez d'eau, il faut s'adapter aussi à des conditions qui sont vraiment très étrangères à notre environnement quotidien.
Ben, écoutez, juste, on parle d'eau, là, Haïti, en 2010.
Oui.
Tremblement de terre incroyable. On sait d'avance que la situation là-bas serait pour être excessivement difficile à vivre. Et le principal problème, c'est d'amener de l'eau. Parce que ça a l'air absolument simple. Ici, on va au dépanneur. Là-bas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'infrastructure. Il faut l'amener. On avait amené 600 bouteilles d'eau. Mais l'avion, c'est des petits avions. On ne peut pas emmener tout ce qu'on peut. Là, il fallait commencer à savoir qu'est-ce qu'on était pour amener, qu'est-ce qu'on laissait là-bas, qu'est-ce qu'on aurait besoin pour survivre, parce qu'on n'avait aucune idée dans quelle situation on était pour.
Et on n'a pas idée non plus, bien sûr, quand on est assis dans son salon, on regarde le téléjournal, on voit des images, mais les conditions dans lesquelles parfois vous vivez, parce que quand vous vous retrouvez dans un lieu comme celui d'Haïti où est survenue une catastrophe naturelle, on se retrouve pas dans un hôtel 5 étoiles.
C'est
rare. Oui, et on a beaucoup de matériel aussi à transporter.
Je me rappelle ce voyage-là, j'étais avec Jean-François Bélanger, que les gens maintenant connaissent bien parce que tout ce qui s'est passé en Europe. Bon. Et on était... quand on a atterri sur la piste, on n'avait pas le droit d'atterrir. L'aéroport était fermé. Le pilote a fait une manœuvre de dérivation pour dire qu'on avait une panne pour nous permettre d'atterrir. Une fois qu'on est sur place, il n'a jamais arrêté les moteurs. Il nous a littéralement expulsé de l'avion, puis il est reparti. Mais on était là, sur le bord de la piste. On n'était pas au terminal. Là, il fallait amener les 1000 livres de matériel qu'on avait au terminal dans un chaos complet.
Pour nous permettre de nous apaiser de ce chaos, on entend déjà les premières notes du deuxième mouvement de l'Andante du concerto en ré majeur d'Antonio Vivaldi, RV 222. Et c'est l'orchestre baroque de Venise sous la direction d'Andrea Marcon qui interprète le tout. On se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de cette émission.